Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Au Burkina Faso, le président Roch marque Christian Kabore à limoger ses ministres de la Défense et de la Sécurité et a lui-même repris le portefeuille de la Défense. Notre correspondant Lamine Traoré fera le point. En République centrafricaine, l'attaque par des rebelles d'une ville à 300 km à l'est de la capitale Bangui a fait 7 morts. Des membres de l'UPC, un des principaux groupes armés rebelles, ont lancé lundi plusieurs attaques en simultané sur les points de contrôle et camps des forces armées centrafricaines à Alindao, a dit hier à l'AFP le lieutenant-colonel Abdulaziz Fall, porte-parole des casques bleus de la MINUSCA. Ces derniers ont repoussé les rebelles qui se sont repliés à 3 km de la ville, selon M. Fall. Les rues désertes de Mbabane résonnaient ce mercredi du claquement de tirs sporadiques au lendemain de heurts en Eswatini, dernière monarchie absolue d'Afrique, secouée depuis quelques semaines par de violentes manifestations, selon un correspondant de l'AFP sur place. Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, selon des militants pro-démocratie. En Afrique du Sud, la condamnation à la prison de l'ex-président Jacob Zuma a été jugée hier inconstitutionnelle par sa fondation, un message fort à ses partisans dont certains convergent déjà vers le domicile de l'ancien président qui a jusqu'à dimanche pour se constituer prisonnier. En Algérie, le ministre des Finances, le technocrate Ayman Ben Abdelrahman, a été désigné hier Premier ministre à la suite des récentes élections législatives marquées par une abstention historique au moment où le pays traverse une grave crise socio-économique. Les bailleurs de fonds internationaux ont promis hier 600 millions d'euros au géant pharmaceutique sud-africain Aspen pour relancer la production de vaccins contre le coronavirus en Afrique, où seulement 1% de la population est vaccinée. Et puis, la Banque mondiale a décidé de porter de 12 milliards à 20 milliards de dollars son plan pour aider les pays en développement à accéder aux vaccins, selon son président David Malpass hier. Le président Xi Jinping a triomphalement vanté ce jeudi l'essor, je cite, « irréversible de la Chine », jadis colonisée et désormais puissance mondiale, lors d'un discours célébrant les 100 ans du Parti communiste et adressé en creux à l'Occident. Le temps où le peuple chinois pouvait être foulé aux pieds, où il souffrait et était opprimé, est à jamais révolu, a-t-il lancé depuis la porte Tiananmen, d'où son lointain prédécesseur Mao Tse-tung, proclamant la République populaire de Chine en 1949. Donald Rumsfeld, ancien faucon et chef du Pentagone sous George W. Bush, architecte controversé de la guerre d'Afghanistan et de l'invasion de l'Irak, un conflit dont l'enlisement lui a finalement coûté son poste, est décédé à 88 ans. Près d'une semaine après l'effondrement soudain d'un immeuble à Surfside en Floride, le bilan s'est encore alourdi mercredi, passant à 18 morts, dont 2 enfants, tandis que plus de 140 personnes sont toujours portées disparues, l'espoir de retrouver des survivants diminuant chaque jour un peu plus. Le président Joe Biden et son épouse Jill sont attendus sur les lieux aujourd'hui. Des dizaines de morts subites, des hospitalisations en hausse et la multiplication de feux de forêt, l'ouest du Canada et des États-Unis suffoquent sous l'effet de températures insoutenables. La canicule historique continue de pulvériser des records. Au Canada, 182 nouvelles tombes anonymes ont été découvertes près d'un ancien passe-pensionnat pour autochtones à Thora-Prière, faisant grimper à plus de 1000 le total de ces sépultures anonymes retrouvées. À New York, la société éponyme de l'ancien président américain Donald Trump et son directeur financier devraient être visés jeudi par des poursuites. suite de nos informations, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a limogé hier ses ministres de la Défense et de la Sécurité. Il a lui-même repris le portefeuille de la Défense. Un remaniement du gouvernement sous la contrainte populaire au regard des nombreuses attaques dans le pays. L'opposition a prévu de manifester le week-end prochain. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le président du Faso, vu la constitution, le président du Faso assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants.
Il était un peu plus de 18 heures en temps universel quand Stéphane Sanou, secrétaire général du gouvernement, est venu annoncer le remaniement du gouvernement à la télévision nationale. Le président Kabore a limogé ses ministres de la Défense, Chérif Sy, et de la Sécurité, Ousseni Compaoré. Le président du Faso est désormais lui-même le ministre de la Défense. Il est suppléé par le colonel-major Barthélémy Sempore, ancien attaché de défense du Burkina Faso à Washington jusqu'en 2019.
Ministre de la Sécurité, Monsieur Maxime Koné.
Maxime Koné, qui était jusque-là ministre délégué à la coopération, a lui été nommé au poste stratégique de la sécurité. Clarisse Wouba occupe le poste vacant de ministre délégué à la coopération. Ce réaménagement intervient à quelques jours d'une manifestation de l'opposition qui entend dénoncer samedi et dimanche une conduite désastreuse de la question sécuritaire du pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté hier dans plusieurs villes réclamant la démission du gouvernement en raison des mesures d'austérité mises en place dans le cadre des réformes soutenues par le Fonds monétaire international. Précision de John Linden.
À Khartoum, la capitale, des dizaines de manifestants ont brûlé des pneus devant le palais présidentiel, arborant des pancartes où l'on pouvait lire « Du pain pour les pauvres » avant que la police ne les disperse à l'aide de gaz lacrymogènes. À Omdurman, ville jumelle de la capitale, des manifestants ont été dispersés de la même manière. À Kassala, dans l'est du pays, des dizaines de manifestants sont descendus dans la rue pour réclamer justice pour des personnes tuées lors des manifestations qui ont chassé Omar el-Béchir du pouvoir en avril 2019. Ces manifestations surviennent moins de 24 heures après que le FMI a annoncé une aide massive pour le Soudan avec un allègement de 50 milliards de dollars, représentant près de 90% de la dette du pays. La grogne populaire s'est accentuée après la suppression début juin des subventions sur les carburants qui a fait doubler les prix du diesel et de l'essence. Lors d'un discours retransmis à la télévision nationale, le premier ministre Abdallah Hamdok a fait l'éloge de la patience et de l'endurance du peuple soudanais après l'annonce du FMI.
Le célèbre acteur africain-américain Bill Cosby, en prison pour agression sexuelle depuis bientôt 3 ans, a été libéré. Ainsi en a décidé la Cour suprême de Pennsylvanie, qui a annulé hier sa condamnation. Abdulrahman Dia.
Les condamnations et les peines infligées à Bill Cosby sont annulées et il doit être libéré, a écrit la haute juridiction de l'État de Pennsylvanie à la fin d'un long arrêt de 79 pages. Âgé de 83 ans, le créateur de la série The Cosby Show est détenu depuis septembre 2018 pour avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Costan en 2004 à son domicile. Dans sa décision, la Cour suprême rappelle que le premier procureur en charge du dossier avait décidé de ne pas le poursuivre au pénal tout en l'incitant à témoigner dans une procédure civile intentée par la plaignante. Or, ce témoignage a ensuite été retenu contre lui lors de son procès quand un nouveau procureur a décidé de relancer l'affaire des années plus tard, notent les magistrats, ce qui est, selon la Cour, une violation du principe fondamental d'équité. La condamnation de Bill Cosby était considérée comme la première de l'ère MeToo et une victoire dans la lutte contre les violences sexuelles visant les femmes. L'acteur, l'un des premiers Afro-Américains à percer sur le petit écran, a été accusé par une soixantaine de femmes d'agressions sexuelles et parfois de viols couverts par la prescription.
La Minute Éco, John Linden.
Au Togo, l'État veut redynamiser le secteur stratégique du coton grâce à sa récente privatisation et aux efforts d'industrialisation. Objectif, faire de l'or blanc une vraie source de revenus et d'emplois pour le pays. La campagne 2020-2021 a été un coup dur pour le Togo qui n'a produit que 67 000 tonnes de coton, soit une baisse de 43% par rapport à l'année précédente. Le Bénin voisin, désormais premier producteur de la région, enregistre une production de plus de 700 000 tonnes. 7,9 millions de dollars, c'est le montant de la somme levée par ZIP, une société ghanéenne de services financiers, au terme d'un financement de série A. Selon Financial Afrique, ce financement hybride vise à soutenir les opérations de la société en Afrique et aux Caraïbes. Présente dans 20 pays africains, ZIP a réalisé un taux de croissance moyen cumulé d'environ 146% entre 2016 et 2021. Elon Musk, le milliardaire et patron de SpaceX, prévoit d'investir 20 à 30 milliards de dollars dans son projet d'Internet par satellite Starlink, son service d'Internet satellitaire, un projet qui doit permettre une connexion à haut débit des régions reculées, notamment en Afrique, sans passer par des infrastructures terrestres.
Merci John. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Finale houleuse hier lors de la 56e édition de la Coupe nationale en République démocratique du Congo. Le Daring Club Motema Pembe s'est imposé devant Sanga Balende 1-0 au stade des Martyrs de Kinshasa. Désir Mbomba Motu a inscrit l'unique but de la rencontre à la 86e minute, mais cette finale a connu des échauffourées qui ont entraîné un arrêt du match de plus d'une heure. Un pénalty réclamé par les joueurs du DC Motema Pembe suite à ce qu'ils considèrent comme une faute sur un des leurs dans la surface de réparation de Sanga Balende a déclenché des jets de projectiles par le public présent au stade malgré le huis clos imposé par la FECOFA. La police a réagi par des jets de gaz lacrymogène pour les éjecter du stade. C'est donc le DC Motema Pembe et l'ASV Club qui représenteront la République démocratique du Congo à la Coupe CAF, toujours en RDC. Florent Ibengue n'est plus le coach de l'AS Vita Club. C'est la présidente de la formation congolaise Blestine Kazadi qui l'annonce dans un tweet. Chers supporters, je vous annonce le départ de notre coach Jean-Florent Ibengue. Au nom de l'AS V Club, nous le remercions pour les services rendus et nous lui souhaitons plein succès, a écrit Mme Kazadi. À la tête de V Club depuis 2013, Jean-Florent Ibengue a remporté le championnat national congolais en 2015 et 2018, vainqueur de la Supercoupe en 2015. Il a été finaliste de la Ligue des champions CAF en 2014 et finaliste de la Coupe CAF en 2018. Athlétisme, la Namibienne Christine Mboma, qui vient de fêter ses 18 ans, a réussi le temps incroyable de 48 secondes 54 sur 400 mètres hier lors du meeting de Bydgoszcz en Pologne, devenant la 7e meilleure performeuse de tous les temps. La jeune Namibienne, inconnue avant cette saison, a amélioré son propre record du monde junior qui datait du mois d'avril, 49 secondes 22. Mboma a réussi de très loin la meilleure performance mondiale de l'année et se pose en grande favorite des Jeux Olympiques de Tokyo. La légende américaine Alison Felix, qui sera présente à Tokyo, possède en 49 secondes 26 un record inférieur à Mboma. Ici aux États-Unis justement, LeBron James, 36 ans, ne jouera probablement plus pour l'équipe nationale américaine selon le manager du Team USA, Jerry Colangelo. James, leader des Los Angeles Lakers, a remporté deux fois la médaille d'or olympique et a été quatre fois champion NBA, mais il a choisi de ne pas participer aux deux derniers tournois olympiques en raison de l'exigence physique imposée par la Ligue nord-américaine. LeBron James a fait partie des équipes olympiques américaines qui ont triomphé en 2008 et 2012. Et pour ces JO de Tokyo, la liste de 12 joueurs retenus comprend deux joueurs présents en 2016, Kevin Durant et Draymond Green, et une nouvelle génération de talents de la NBA.
Merci, Yacoub. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, de la grève sèche et illimitée lancée par les deux syndicats des magistrats pour exiger des autorités de N'Djamena plus de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions se poursuit sur l'ensemble du territoire national. André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Ce débrayage paralyse l'appareil judiciaire. Au palais de justice de N'Djamena, les magistrats, de façon unanime, ont rangé leur touche noire dans les placards depuis lundi. Les justiciables tournent en rond. Un arrêt de travail pour exiger du gouvernement la protection du personnel judiciaire suite à l'assassinat de leur collègue, le procureur de Mhajer, dans la province du Bataar.
L'adoption de tous les magistrats en armes de poing, le renforcement de l'effectif dans tous les tribunaux du Tchad et aussi de poursuites contre certains agents de la police. La poursuite de Madame la ministre des Affaires consulaires pour abus d'autorité, abus de confiance, entrave à l'action de justice.
Kauka Brino, président du syndicat autonome des magistrats du Tchad. Pour lui, les magistrats tchadiens travaillent dans des conditions très difficiles et avec la peur au ventre.
Aujourd'hui, on a des personnes qu'on ne peut pas contrôler. On a des armes qui circulent. Dans des arrêts pays, il y a certains magistrats qui travaillent dans des palais de justice qui n'ont pas de mur. Depuis la nuit du temps, on a toujours dit que nous sommes en insécurité. Le 7 passé, ça s'est soldé pratiquement par un assassinat. Quand un magistrat négligence ses fonctions, c'est
du
tout.
Le président du syndicat des magistrats du Tchad, Moussa Ouad Djibril, déplore quant à lui le comportement de ses collègues de la cour d'appel de Sar, province du Moyen-Chari, au sud du Tchad, qui n'observent pas cette grève.
Sur l'ensemble du territoire, tous les collègues sont appelés à observer un arrêt de travail. C'est un problème de conscience propre de chaque magistrat, puisque c'est notre corps qui est menacé. Mais cela ne peut pas entamer la détermination de l'ensemble des autres collègues sur l'ensemble du territoire national.
Les avocats au barreau du Tchad soutiennent cette grève qui, selon eux, vise donc à exiger la sécurité de tous les acteurs judiciaires.
Lorsque ceux qui sont censés dire le droit ne sont pas en sécurité, nous, acteurs judiciaires, tous subissons ces phénomènes. Par conséquent, nous les soutenons et que toute la lumière soit faite sur cette affaire.
Maître Ndjirandi Laker Dianro, président du Conseil de l'Ordre des Avocats.
Nous espérons que le gouvernement entendra raison et que des actions fortes seront menées d'ici là pour mettre un terme à cette spirale de violence à l'égard des acteurs judiciaires et que les choses reviennent à la normale. Nous le souhaitons vivement.
Pour l'ancien ministre de la Justice, Ahmad Mohamed Hassan, l'humiliation dont font l'objet quotidiennement les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions est très grave pour un état de droit attaché au principe universel du respect de la justice. Il évoque les maux qui gangrènent la justice tchadienne.
Il y a l'impunité généralisée dans l'ensemble de la République du Tchad et un incivisme caractérisé des citoyens. Il y a également la corruption dans le milieu de la justice qui donne l'impression qu'on achète les procès. Donc les justiciables, même si le magistrat prononce une bonne décision, s'il perd le procès, il pense que son adversaire a donné beaucoup plus de l'argent pour gagner le procès. Et il y a le déficit de l'autorité de l'État. Il faut absolument que l'autorité de l'État s'affirme, parce qu'on s'attaque à un magistrat, on s'attaque à l'institution judiciaire.
Aucun commentaire pour l'instant du côté de la chancellerie. Contacté par VOA Afrique à travers son service de communication, le ministre de la Justice a indiqué qu'une négociation avec les responsables de deux syndicats de magistrats du Tchad a été entamée, mais sans donner trop de détails. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad sur 93.1 FM.
Au Mali, l'ancien président de la transition, Ba Ndao, et l'ancien premier ministre, Mokhtar Ouane, sont toujours assignés à résidence. Ils avaient été arrêtés le 24 mai dans un second coup de force mené par le colonel Assimi Goïta et les militaires restés au pouvoir. Messieurs Ndao et Ouane ont pu rentrer chez eux à Bamako le 27 mai, mais sont maintenus en résidence surveillée. Mardi, l'association malienne des procureurs et poursuivants a publié un communiqué qualifiant cette situation d'atteinte grave et délibérée aux libertés publiques reconnues par la Constitution. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Bamako Brahima Konaté, porte-parole de l'association malienne des droits de l'homme.
Les personnes officiellement reconnues comme étant en résidence officielle sont Mbandao, l'ex-premier ministre, sont les personnes que nous connaissons déjà comme étant en résidence surveillée, qui ne sont pas libres de tous leurs mouvements.
Est-ce que vous savez pourquoi ces personnes-là sont en résidence surveillée?
La raison principale, c'est que Mbandao et le premier ministre ont fait l'objet d'arrestation par les autorités du jour. Et depuis, ils ne sont plus libres de leur mouvement. Il n'y a pas à notre connaissance, une charge qui est retenue contre eux pour qu'ils soient mis à la disposition des autorités de la justice pour éventuellement des besoins de jugement. Étant donné qu'il n'y a pas de charge reconnue contre eux, alors nous pensons que leur détention ne se justifie pas.
Vous êtes justement une association des droits de l'homme, l'association malienne des droits de l'homme. Qu'est-ce que votre association fait dans ce sens?
Pour ce cas précis, nous n'avons pas encore posé date, mais pour les cas, nous demandons aux autorités, nous leur adressons des correspondances pour comprendre les raisons pour lesquelles les personnes sont détenues. Et s'il n'y a pas de raison légale qui justifie leur détention, nous leur recommandons de les mettre en liberté purement et simplement, ou alors de les mettre à la disposition des autorités de justice pour que justice soit rendue. Si éventuellement les autorités retiennent contre des charges.
L'association malienne des procureurs et poursuivants a fait un communiqué hier demandant la libération justement de ces ex-autorités de la transition, dont Mokhtar Ouane, l'ancien premier ministre et l'ancien président de la transition, Ban Dao. Est-ce que vous pensez que cela va changer les choses?
Si alors les autorités du jour sont suffisamment alertes, ça doit changer quelque chose. Parce que autrement, nous nous inscrivons dans une démarche qui n'est pas logique. Si nous sommes en démocratie, les personnes ou les citoyens doivent être libres de leur mouvement. Et si ces personnes-là sont entre les mains des autorités, alors elles doivent justifier les raisons pour lesquelles elles sont retenues. Retenus contre elles, ils sont en train de violer la Constitution. Il dit que chaque individu est libre de ses mouvements d'aller et venir. Or, en état actuel, ni Ban Dao ni le Premier ministre ne sont libres de leur mouvement. Du coup, nous sommes en droit de dire que c'est une détention illégale.
Que pensez-vous de la situation des droits de l'homme depuis le second coup d'État en 9 mois?
Au vu de la situation de l'ancien président, du Premier ministre, nous pouvons dire que la question des droits de l'homme n'est pas au bout fixe. Que les autorités du jour ont intérêt à ce que les personnes jugent pleinement de leurs droits et les priver arbitrairement et se mettre vraiment les organisations, la communauté internationale sous le dos.
Brahima Konaté, porte-parole de l'Association malienne des droits de l'homme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, Nnamdi Kanu, leader des sécessionnistes Biafré, a été arrêté dimanche avec l'aide d'Interpol, selon le procureur général du Nigeria. Son organisation, le Mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, a été qualifié d'organisation terroriste par les autorités nigérianes. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Nnamdi Kanu est une figure populaire qui est une épine dans le pied des autorités nigérianes depuis 2009. En octobre 2015, Nnamdi Kanu a été arrêté par les autorités nigérianes pour 11 chefs d'accusation, notamment pour terrorisme, trahison, propos diffamatoires et possession illégale d'armes à feu, entre autres. Aboubakar Malami est le ministre nigérian de la Justice.
Nnamdi Kanu has, for your information, been intercepted.
Pour votre information, Nnamdi Kanu a été arrêté à l'aide de la coopération des services de renseignement et des agents de sécurité du Nigeria. Il a été ramené au Nigeria et son procès va se poursuivre.
Son organisation a créé une branche armée l'année dernière, connue sous le nom de Eastern Security Network ou encore le Réseau de Sécurité du Sud. Les autorités affirment que le groupe est responsable d'un certain nombre d'attaques contre des postes de police et autres propriétés publiques dans le sud du Nigeria. Des accusations démenties par le groupe. Pour cet ancien directeur des services de renseignement du Nigeria, Mike Ejiofor, l'arrestation de Nnamdi Kanu est significative.
Cette arrestation est un acquis majeur. Personne n'est contre la lutte de Nnamdi Kanu pour le Biafra. Mais cela doit être mené d'une manière légale, pas dans la criminalité. À cause de ces agitations, plusieurs innocents ont trouvé la mort.
Le Congrès mondial des Igbo appelle les autorités nigériennes à assurer la sécurité du leader autoprogrammé des peuples autochtones du Biafra, Ladi Thompson, expert en sécurité, réagit à l'arrestation de Nnamdi Kanu.
Le gouvernement fédéral doit comprendre que mettre la pression sur Nnamdi Kanu fait partie de tout ce débat. Je voudrais d'abord dire qu'il y a une différence entre le concept de Biafra, le rêve de Biafra, l'avènement de Biafra, La lutte de Biafra, le traumatisme de Biafra et les opportunistes comme Nnamdi Kanu qui profitent de la situation pour montrer qu'on ne prête pas attention à tout ce que je viens de citer.
Le président Muhammadu Buhari a promis d'écraser le mouvement de hip-hop. Le mois dernier, il a tweeté sur les problèmes de sécurité dans le sud-est du Nigeria, menaçant ceux qui se conduisent mal. Le tweet a été supprimé par Twitter pour avoir enfreint ses règles. Le président du groupe des Nigériens préoccupés, une organisation de la société civile, a une autre vision sur le cas de Nnamdi Kanu, Dedij Adeyanzu.
Le gouvernement nigérian semble être en train de célébrer en se comportant comme si Nnamdi Kanu était un grand terroriste qu'ils ont capturé. Sous ce régime, près de 20 000 personnes ont été massacrées par les éleveurs Peul dans tout le pays. Leur leader accorde des interviews sur les chaînes de télévision.
Le chef du mouvement séparatiste Biafra est présentement détenu en attendant la reprise de son procès le 26 juillet prochain devant un tribunal fédéral d'Abuja. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Lutte contre la pandémie de COVID-19, plus de 3 milliards de doses de vaccins ont déjà été administrées dans le monde. L'Afrique est la partie de la planète qui accuse le plus de retard par rapport à cette campagne de vaccination. Seulement 1% de la population africaine a été vaccinée. Pour une analyse, Mohamedou Houmfa a joint le docteur Marie Mbaga, médecin de santé publique basé ici à Washington.
Le fait que l'infection à COVID-19 a été beaucoup plus démonstrative dans les pays du Nord et beaucoup moins dans les pays du Sud a également joué un rôle pour conforter la population dans le fait que c'était une maladie qui sévissait chez les autres et pas en Afrique. Aussi, malgré la non-observance des mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale et le port de masque, nous avons une population africaine qui a continué sa vie, qui a ses occupations, sans que cela ne l'affecte plus ou moins gravement. Et même quand des décès au niveau des proches étaient observés, cela n'était pas toujours imputé à l'infection à COVID-19, y compris à cause des problèmes de reporting des données, etc., etc. Donc, quand on a une population qui a vécu dans ce paradigme-là, il est difficile de convaincre cette population qu'une solution préventive, notamment le vaccin, c'est quelque chose qui les concerne.
Alors, il y a donc très clairement un problème de croyance en la maladie, en l'efficacité de ces vaccins et même en l'adhésion à la vaccination comme solution contre la maladie. Qu'est-ce qu'il faut donc faire?
Peut-être que cette nouvelle vague, qui semble être plus violente, permettra aux uns et aux autres de prendre un peu la mesure de la situation et de prendre les précautions préventives, notamment la vaccination, pour se prévenir. D'autre part, il est important d'avoir un plan de communication très solide, axé sur la lutte acharnée des fake news sur les réseaux sociaux. Les autorités de communication doivent pouvoir mettre en place des systèmes qui filtre au niveau des réseaux sociaux toutes ces fake news sur le COVID-19 et la communication pour faire que cela cesse un tout petit peu. Et cela, je pense que ça aidera un tout petit peu pour mitiger un peu l'effet des fake news sur la population.
Pendant quasiment un an, les pays africains ont reçu des doses du vaccin AstraZeneca fabriqué en Inde dans le cadre du dispositif COVAX. Aujourd'hui, ces doses ne seraient pas valides pour le certificat sanitaire européen. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne pense pas qu'il y aurait des conséquences particulières. Ils vont juste attendre que l'Union européenne finisse leur évaluation et donne les homologations nécessaires pour qu'ils puissent maintenant être reconnus au niveau de l'espace européen. Par contre, ce qui est important à noter ici, c'est la capacité des pays à être autonomes en matière de santé mondiale et à ignorer complètement les recommandations de l'OMS. Donc, ça montre encore une fois de plus qu'il y a un organe qui est là, l'OMS, qui est censé représenter et coordonner les activités de santé mondiale, mais qui ne joue pas son rôle. Et d'ailleurs, c'est dommage pour les contributeurs comme l'Union européenne qui finalement contribuent pour qu'on paye le fonctionnaire de l'OMS pour faire un travail et après paye encore un autre fonctionnaire de l'Union européenne pour faire le même travail parce que finalement, ça fait un peu désordre.
Le docteur Marie Mbaga, médecin de santé publique basé ici à Washington. « Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.